Il y a plusieurs approches différentes parmi les récits des commencements du Christ dans l'humanité. Alors l'Évangile selon Jean aborde la venue du Christ de façon très théologique. Christ est la parole éternelle de Dieu faite chair. L'Évangile selon Marc, lui, commence par le baptême de Jésus, avec l'Esprit qui descend et la voix de Dieu qui se fait entendre et qui nomme Jésus son Fils bien-aimé. Les évangiles selon Matthieu et Luc sont plus proches. Ils commencent tous les deux leur récit par la conception miraculeuse de Jésus et sa naissance. Ils sont donc assez proches sur ce point, les deux évangiles, selon Matthieu et Luc. Il y a pourtant une différence essentielle entre ces deux évangiles. Dans le texte de Matthieu, c'est Joseph qui est le personnage principal. C'est lui qui est en contact avec Dieu dans les moments décisifs. Et Matthieu ne nous dit presque rien de Marie ni de Jésus, en fait, dans ce premier texte. On sait simplement qu'ils sont là et que Joseph s'occupe d'eux. Dans le texte de Luc, au contraire, c'est Marie qui a le premier rôle. C'est grâce à elle, grâce à son humilité devant Dieu et sa confiance en lui, que Jésus sera conçu. Et Luc ne nous dit presque rien de Joseph dans cette histoire, en tout cas rien qui nous fasse apparaître ses qualités. Luc nous dit simplement qu'il est le fiancé de Marie et qu'il va faire recenser sa famille, ce qu'il était obligé de faire de toute façon. Alors comment interpréter ces différences? C'est là-dessus que je vous propose de réfléchir pour ce jour de Noël, pour vraiment nous ouvrir à cette prédication sur la venue du Christ dans notre vie, dans notre monde. Alors je lirai d'abord dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, à partir du verset 18, le récit donc de la conception et la naissance de Jésus. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y songeait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée ». Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » après avoir entendu le roi, ils partirent et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et ils l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut encore en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, il prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte, et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors je voudrais vous lire aussi dans le même évangile selon Matthieu un passage de la première prédication de Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne au chapitre 5, les versets 14 à 16. Voilà ce que Jésus nous dit. « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient alors votre Père qui est dans les cieux. » Alors maintenant, je vais vous lire dans l'Évangile selon Luc, au premier chapitre, le récit que Luc nous fait de la conception de Jésus. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et il lui dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as vraiment trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est maintenant dans son 6e mois, car avec Dieu, tout est possible. » Marie dit : Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » L'ange alors s'éloigna d'elle. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter ensemble pour commencer à méditer sur cet évangile de Noël, le cantique numéro 108, « Émerveillons-nous ensemble », les quatre premières strophes de ce cantique numéro 108. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir maintenant ta parole, non seulement l'entendre mais aussi la recevoir, non seulement la connaître mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier mais la mettre en pratique. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Angelus Silesius est un mystique allemand du XVIIe siècle qui est bien connu pour ses prédications condensées en une seule ligne. Pour Noël, il donne cette belle prédication qui est probablement en fait inspirée d'une idée de Luther. Il faut qu'en toi Dieu naisse. Christ serait-il né 1000 fois à Bethléem, s'il n'est pas né en toi, tu restes mort à jamais. Et effectivement, je crois que toute la question est là, que le Christ naisse en nous, ou qu'il naisse de plus en plus, qu'il grandisse. Et c'est pourquoi nous avons des versions très différentes de la venue au monde de Jésus. C'est pourquoi les premiers chrétiens ont gardé ces versions différentes de la même histoire, c'est qu'elles donnent chacune un message fondamental, complémentaire de la foi chrétienne pour que Christ puisse naître et vivre vraiment en nous. Luc nous propose de nous identifier à Marie, la mère de Jésus, et comme elle, de laisser féconder notre existence par Dieu. Luc nous propose de participer ainsi à la conception du Christ en nous, qui est alors à la fois l'enfant de Dieu et notre enfant, à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Matthieu nous propose, lui, de suivre Joseph et d'adopter Jésus. Contrairement à Marie, Joseph n'est pour rien dans la conception de Jésus. C'est indépendant, même contre sa volonté. Au début de l'évangile selon Matthieu, on le voit, Jésus est déjà conçu. La question n'est donc pas de faire naître Jésus ou la vie spirituelle dans notre existence, en nous, mais c'est plutôt de reconnaître que cette vie spirituelle, que la vie de Dieu existe déjà au plus profond de nous-mêmes. Et la question, c'est plutôt de la reconnaître, de l'adopter, puis de la protéger, de protéger cela comme un petit enfant de la fureur de ce monde, de la fureur de l'égoïsme du mal, comme Joseph protège Marie et Jésus du roi Hérode. Luc insiste donc plus sur la participation de l'homme dans cette nouvelle naissance qu'est la vie du Christ qui surgit en nous. Matthieu insiste plus sur le fait que tout être humain est par nature même enfant de Dieu, même si cette vie éternelle qui vient de Dieu n'est qu'en lui que sous forme embryonnaire et bien cachée, cette vie existe de toute façon. Matthieu insiste donc sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi Marie semble complètement en dehors de l'histoire qui est racontée par Matthieu. Mais Marie n'est évidemment pas un personnage négligeable dans ce texte, bien au contraire. Elle représente la vie humaine dans ce qu'elle a de plus noble, le lieu même de l'accueil de Dieu au cœur de l'être humain. Matthieu nous dit simplement que Marie a déjà conçu le Christ, que c'est de l'histoire déjà passée, qu'il vient de Dieu, qu'il est à l'origine même de notre histoire, de notre vie, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non. Selon Matthieu, Dieu a déjà fait exister, vivre le Christ en nous. La question, c'est de savoir le reconnaître et l'adopter. C'est la définition même de la grâce de Dieu. Il donne la vie gratuitement, sans condition. Apparemment, cette conception radicale de la grâce de Dieu est chère à Matthieu, puisqu'il la place dans ce passage clé qu'est le début de la prédication de Jésus dans l'Évangile, aussi dans ce discours du sermon sur la montagne, où Jésus annonce que chacun est la lumière du monde, que nous pouvons éventuellement cacher cette lumière comme sous un boisseau, mais que même alors, si nous semblons sombres et obscurs, eh bien cette lumière est cachée au plus profond de nous-mêmes, et que cette lumière demeure comme enfouie en nous. Matthieu a donc placé cette annonce radicale de la grâce de Dieu, de la vie de Dieu en nous, au début de son évangile et au début de la prédication de Jésus. L'évangile de Noël, selon Luc, est différent. Ce serait plutôt une invitation à laisser Dieu allumer la lampe qui est en nous. Alors que l'évangile de Noël, selon Matthieu, nous dit que la lumière, elle existe déjà en nous et qu'elle existera toujours. Notre rôle, nous dit Jésus, est alors seulement de valoriser cette lumière qui nous a été donnée depuis toujours, afin qu'elle brille dans notre maison, sur notre entourage et bien au-delà, et qu'ainsi la gloire de Dieu soit manifestée et qu'elle puisse être reconnue, chantée par les hommes. C'est d'autant plus important de faire briller cette lumière que la lumière qui est au-dedans de nous est une lumière originale que personne d'autre que nous peut faire briller. C'est ce que dit donc Jésus dans ce passage quand il dit que vous êtes la lumière du monde. Il ne le dit pas globalement pour l'ensemble de l'humanité, que c'est la lumière de l'humanité et la lumière du monde, mais c'est un appel individuel, puisque l'appel individuel à faire briller cette lumière retentit dans la suite de ce passage. Matthieu insiste donc sur la grâce de Dieu et il nous invite à découvrir les fruits de cette grâce de Dieu déjà présent, déjà vivant en nous, puis à protéger, nourrir, élever cette vie qui nous a été donnée afin qu'elle puisse accomplir son œuvre. Et dans cet appel de Noël selon Matthieu, la prière est le point fondamental. C'est ainsi que Joseph prend conscience de l'existence de son fils. C'est ensuite qu'il pourra arriver à le protéger de la fureur du monde et il pourra ensuite, dans une troisième expérience mystique, savoir quand il pourra revenir pour qu'il puisse être parmi son peuple. Et le chandelier unique dont parle la prédication de Jésus, sur lequel on doit dresser la lumière, le chandelier, comme dit Jésus, ça évoque le temple de Jérusalem, c'est-à-dire le lieu de la prière par excellence. Et nous sommes donc lumineux, il faut simplement élever cette lumière par la prière, la laisser briller sur nous et sur notre entourage. Pour Joseph, la découverte de cette vie que Dieu lui a donnée est une surprise plutôt difficile à faire, puisqu'il n'est pour rien dans cette conception. Il y a des personnes qui découvrent ainsi la présence de Dieu par surprise, avec surprise, sans vraiment savoir d'où vient ni ce que c'est que cette vie, cette présence qu'ils découvrent en eux-mêmes. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des personnes qui arrivent, qui prennent rendez-vous en me disant « je ne sais pas, mais je sens cette présence de Dieu, je suis d'un milieu complètement athée, n'ayant eu aucune éducation religieuse, dites-moi ce que c'est que la foi, car je sens la présence de Dieu. » Joseph ne prend pas cela très bien que sa fiancée soit enceinte d'un autre, bien sûr, cela se comprend. Mais c'est surtout le roi Hérode qui sent que cette naissance est une menace contre son pouvoir. Les réactions de Joseph et d'Hérode sont intéressantes car elles posent la question de notre liberté personnelle face à l'Évangile, Évangile de la grâce de Dieu tel que l'annonce Matthieu, où l'homme se voit comme imposer finalement la vie divine en lui. Mais, semble nous dire Matthieu, notre liberté demeure, c'est celle de faire comme si cette dimension n'existait pas, ou au contraire de l'adopter, de la valoriser, de la faire vivre et rayonner. Il en serait finalement de cette dimension lumineuse de notre être comme de nos mains, par exemple. Leur existence nous est imposée, nous est offerte comme un cadeau, comme une faculté disponible, mais on a le droit de se fixer comme règle de jouer sans les mains, comme le font les gens qui jouent au foot. Mais peut-être qu'un fou furieux, évidemment, pourrait se couper les mains pour refuser ce cadeau qui lui a été fait. Alors, un peu comme la fureur d'Hérode qui cherche à tuer cet enfant. Mais on voit dans cette histoire, dans cet évangile, que Hérode n'arrive pas à supprimer cette vie. Donc ce n'est pas tout à fait comme les mains qu'on pourrait couper. Seulement tout ce qu'il arrive à faire dans sa fureur, c'est à ravager son propre peuple. Et donc je crois que, qu'on le veuille ou non, la vie de Dieu est en chacun de nous. Pour l'athée, la grâce et même l'existence de Dieu apparaissent comme une illusion ou comme un grand mensonge. Et il brime sa vie spirituelle, il l'ignore, il l'enfouit au plus profond de lui-même, mais pourtant, cette réalité est bien là. Dieu a déjà donné à chacun cette qualité d'être qu'est le Christ. Il l'a donné en germe, à l'athée, comme aux croyants. Il a mis au plus profond de chacun cette lumière, qu'elle soit ou non visible de l'extérieur, et cela fonde l'infinie dignité de chaque personne humaine. Et c'est une bonne chose, je crois, que Dieu ne nous demande pas notre avis pour nous donner cette part divine de notre être. Et c'est normal qu'il en soit ainsi, car l'amour vrai est sans chantage, sans condition. Comme le dit l'apôtre Paul, l'amour supporte tout, il endure tout, mais en même temps, nous dit Paul, il espère tout. Et je crois que c'est vraiment cela, Dieu nous donne cette vie et il espère que nous la ferons rayonner. Le don de la vie, c'est la liberté de Dieu. Notre liberté, elle est ailleurs. Comme Joseph dans le récit de Matthieu, l'homme peut se révolter contre cette vie qui est conçue sans que nous l'ayons souhaitée ou voulue ou fait. Cela brime notre orgueil. Nous aimerions nous faire entièrement nous-mêmes, comme si c'était possible. Et si nous devons quelque chose à quelqu'un, nous avons l'impression d'être humiliés par une dette. Alors c'est compréhensible. Mais en réalité, il est bon. Il est agréable de reconnaître et de valoriser ce que nous devons aux autres. Il est bon de reconnaître ce que nous avons reçu des générations passées comme trésor de vie, d'abord, mais aussi de culture, de science, de technique, de confort, d'œuvres d'art. Il est bon de reconnaître quand quelqu'un nous a apporté quelque chose et de savoir compter sur l'aide des autres. Il est bon enfin de reconnaître cette vie incroyablement belle que Dieu a mise en nous. Il est bon d'en être profondément reconnaissant. Mais cela n'est pas obligatoire. Cela demande, comme Matthieu le précise pour Joseph, d'avoir un peu de justice, un peu d'amour et un peu d'intelligence. Il faut un peu de ces trois qualités pour accepter ce que Dieu nous donne quand il nous donne sa présence, cette vie du Christ en nous, pour qu'on puisse l'adopter et la valoriser. D'après Matthieu, nous n'avons même rien à faire pour que le Christ grandisse. Contrairement à Luc, où l'on voit l'enfant Jésus grandir en force, en sagesse et en grâce dans la famille de Marie et de Joseph. Selon Matthieu, Dieu nous donne la vie en Christ. Mais pour que cette vie puisse vraiment se manifester au monde, elle a besoin de notre adoption, que nous la reconnaissions comme étant la nôtre. C'est une décision très intime, toute intérieure, toute mystique, comme ce dialogue entre Joseph et l'ange. Même Dieu ne voudrait ni ne pourrait nous forcer à l'adopter. Joseph, il accepte donc d'adopter Jésus, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il ne l'avait pas fait, s'il avait vraiment répudié Marie ? Alors bien sûr, c'est impossible à savoir pour ce qui est de l'histoire de Jésus de Nazareth, et cela ne se sert à rien de se poser ce genre de questions. Mais la question se pose pour le Joseph qui est en nous et qui représente notre conscience personnelle. Si cette part de nous-mêmes refusait d'adopter la vie que Dieu nous donne, que se passe-t-il ? Eh bien, l'histoire de la lampe sous le boisseau évoque cette question. Quand Joseph refuse d'adopter l'enfant, Marie reste alors comme enceinte, sans accoucher, indéfiniment. Et cela tant que l'on n'accepte pas que le Christ naisse en nous. Mais le Christ serait pour autant toujours présent. Mais comme enfoui au plus profond du meilleur de nous-mêmes, et il ne pourrait alors malheureusement pas rayonner pleinement sur notre vie et sur notre entourage, ce qui serait un gâchis irréparable, bien sûr. Mais peut-être quand même que cette lampe sous le boisseau, tout enfoui à l'intérieur, pourrait quand même nous réchauffer un peu de l'intérieur. Joseph, lui, eh bien, il découvre qu'en adoptant le don de Dieu, cette vie secrète devient une vie qui est source de salut pour lui, pour ses proches, et même bien au-delà de ce qu'il aurait pu raisonnablement attendre. Cette vie, c'est l'Emmanuel, la présence de Dieu au milieu de nous, la présence de Dieu au-dedans de nous. Au début, il y a eu pour Joseph comme une parole discrète qui lui chuchote une promesse en lui parlant d'une vie qu'il ne connaît pas encore. Il y a eu ensuite la découverte intime de cette vie bien réelle comme Marie et Jésus ont pu le faire dans leur maison en prenant cet enfant Jésus dans leurs bras. Il y a eu ensuite rapidement des signes concrets de la puissance immense de salut qu'il y a dans cet enfant, dans cette vie du Christ, avec l'arrivée de ces mages venus de l'autre bout de la terre qui viennent adorer Jésus et qui vont repartir transformés par cette rencontre. Avant, ils étaient guidés par des superstitions diverses et repartant, ils sont vraiment en relation cœur à cœur avec Dieu, capables d'entendre sa parole pour les guider. Cette histoire, elle parle aussi de nous, bien sûr. Tout notre être, même ce qui est a priori le plus étranger à Dieu, bénéficiera du salut de Dieu si nous adoptons ce don de Dieu qui nous est fait. Comme ces mages qui viennent d'un endroit inconnu, de façon étrange, et qui sont transformés par cette présence de Dieu qui se manifeste en Christ et qui les guidera par la suite. L'Évangile selon Luc témoigne aussi de la grâce de Dieu, évidemment, car c'est le cœur de l'Évangile. Marie n'a rien fait pour mériter d'être ainsi bénie par la visite de Dieu et par son offre inouïe et par cet incroyable, je dirais, geste de création qu'elle va recevoir. Voici le message de Noël selon Luc, c'est la grâce d'une vocation qui nous est donnée. Et l'appel de Noël selon Luc, c'est de participer avec Dieu à la conception du Christ en notre sein. Pas seulement de la reconnaître et de l'adopter comme son enfant, mais de participer à sa conception au plus profond de nous. Et c'est pourquoi la personne de la Vierge Marie est centrale dans l'Évangile selon Luc comme modèle du croyant, alors que c'est Joseph qui nous est proposé comme modèle dans l'Évangile selon Matthieu. En offrant à la fois ces deux témoignages, le témoignage de Luc et de Matthieu, la première Église chrétienne a fait preuve, je crois, d'une sagesse pleine de respect, d'intelligence et de foi. Car nous sommes concernés par ces deux prédications. Il y a déjà en chacun de nous un Christ qui est déjà là, et il y a aussi du Christ qui est encore à concevoir. Peut-être juste est-il préférable de commencer avec Matthieu en reconnaissant ce début de Christ qui est en nous, et ensuite, fort de cette foi déjà naissante, nous aurons la force avec Marie de devenir de plus en plus porteurs de vie avec Dieu et par Dieu. Amen.